Alors, on est encore là? Vous êtes encore là? Salut à tous, on est le 20 décembre 2025 et il reste plus ou moins 10 jours avant 2026. Et je vais être honnête avec vous, je ne sais pas ce qu'on fout encore ici. Normalement, à cette heure-là, le seul volume qu'on devrait encore traiter, c'est celui du vin chaud sur les marchés de Noël. Mais non, le marché, lui, a décidé qu'il n'avait pas sommeil, qu'il n'avait pas vraiment encore envie d'arrêter. Ça fait 30 ans que je traîne mes guêtres dans cette industrie. J'ai vu des bulles, j'ai vu des crashs, j'ai vu des banquiers centraux nous sortir des phrases comme irrationnel, exubérance. Mais une semaine comme celle qu'on vient de vivre, c'est le sommet de l'art de la finance. Un chef-d'œuvre de bricolage statistique et de déni collectif. On va faire le point, mais attachez vos ceintures parce que si vous cherchez de la logique, vous vous êtes trompé de chaîne. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 20 décembre 2025 et je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On commence donc par le plat de résistance, l'inflation américaine. Le chiffre est tombé, vous l'avez vu, 2,7% contre 3% attendu. Euphorie, champagne, caviar et foie gras pour tout le monde. Trump nous explique que c'est une nouvelle ère et que les USA vont faire un carton et que 2026 va être du velours. Mais il faut juste se réveiller quand même. C'est un chiffre qui est sorti tout droit d'un chapeau après 43 jours de shutdown. Et le BLS nous dit, je cite, « On n'a pas pu relever 2/3 des prix, mais bon, on a fait une moyenne au feeling. » C'est un peu comme si votre médecin vous disait « J'ai pas toutes vos analyses de sang, mais vous avez bonne mine, donc vous êtes en pleine forme. » On sait que les loyers explosent, on sait que les courses coûtent toujours un rein, mais le papier a dit 2,7%. Alors, le marché est content, le marché achète, c'est de la poésie administrative, rien d'autre. Et le chômage, pendant ce temps, à 4,6%, bah, c'est pas grave non plus. Apparemment, c'est juste de la faute au licenciement d'Elon Musk il y a 6 mois qu'on vient juste de retrouver sous une pile de dossiers. On est en plein délire. Et le pire, c'est que ça ne choque personne. Bref, on a une inflation qui baisse sur le papier, mais qui monte dans votre porte-monnaie, et c'est le triomphe de la bureaucratie sur la réalité. Mais bon, et si le marché veut croire au compte de fées administratif pour justifier son rallye, qui suis-je pour l'en empêcher? Après tout, à Noël, on a bien le droit de croire au Père Noël. Et là, visiblement, le Père Noël, il travaille au bureau des statistiques. Et puis alors, au milieu de la semaine, on a eu droit au psychodrame Oracle, une rumeur démentie 10 minutes plus tard, disant qu'il n'aurait pas un prêt de 10 milliards pour un data center. Résultat, on a vendu tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un processeur, panique totale. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, le marché a quand même une trouille bleue que l'IA ne rapporte jamais un centime. Et puis Micron a débarqué, ils nous sortent des chiffres venus d'une autre galaxie, on ne produit pas assez, les marchés s'envolent, on a déjà vendu tout notre stock jusqu'en 2026, et là, paf, on oublie tout et on rachète tout. Nous sommes donc passés de l'IA est une bulle à Nvidia et le nouveau Messie en moins de 48 heures. C'est pas de l'investissement, c'est de la bipolarité. En résumé, on a eu peur pour rien, on a racheté pour tout et on finit la semaine avec des valorisations qui défient toujours les lois de la gravité. Le message est assez clair, tant qu'il y a des puces à vendre, la raison peut rester au vestiaire. On ne finance plus des profits, on finance de la science-fiction. Et pour l'instant, la fiction se vend beaucoup mieux que le réel. Bon. Maintenant qu'on s'est bien extasié sur les puces américaines, revenons un peu de notre côté de l'Atlantique, parce qu'en Europe aussi, on a eu droit à notre petite dose de divertissement monétaire cette semaine. D'un côté, on a la BCE, Christine Lagarde est montée à la tribune pour nous dire rien. Enfin si, statu quo, en gros statu quo, le taux de dépôt reste à 2%, c'est la 4e fois de suite qu'il ne touche à rien. Mais le plus drôle, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont relevé leur prévision d'inflation pour 2026 à 1,9%. Pourquoi? Parce que, je cite, « l'inflation des services baisse plus lentement que prévu ». Traduction pour ceux qui ne parlent pas, le banquier central, on n'a aucune idée de quand on pourra baisser les taux à nouveau. Alors on fait semblant d'être prudent en attendant que l'économie nous donne un signal, n'importe lequel. C'est la stratégie de la statue de sel, on ne bouge pas, on regarde passer des trains et on prie pour que la croissance ne s'asphyxie pas complètement. De l'autre côté de la Manche, eh bien c'est la Bank of England qui a parlé, c'était une autre ambiance. Alors oui, ils ont tranché, baisse des taux à 3,75, mais attention, ça s'est joué au tirage au sort, ou presque, puisque c'était 5 voix contre 4, et c'est le vote le plus serré de l'année. Andrew Bailey a dû utiliser son vote prépondérant pour faire passer la baisse. Pourquoi ça stresse? Eh bien parce que l'inflation britannique est tombée à 3,2%, ce qui est une bonne nouvelle au pays du fish and chips, mais c'est encore l'inflation la plus élevée du G7. Il baisse donc les taux parce que l'économie britannique est en train de caler, croissance négative en octobre, mais ils ont une peur bleue que les prix repartent à la hausse. C'est ce qu'on appelle piloter un avion avec un moteur en feu et l'autre en panne, tout en essayant de convaincre les passagers que l'atterrissage se fera tout en douceur. En gros, on a une Europe à deux vitesses, Francfort qui joue la montre en espérant un miracle et Londres qui appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps pour éviter le décor. Dans les deux cas, le message est le même, la visibilité nulle, mais on fait comme si tout était sous contrôle. C'est ça la magie de la finance européenne en 2025. On ne sait pas où on va, mais on y va à la vitesse d'un TGV. Et pendant qu'on se passionnait sur les banques centrales européennes, le Japon, qui dormait depuis l'invention du Walkman, a décidé de monter ses taux à 0,75%. Un record en 30 ans, normalement dans un monde normal, le carry trade explose, le yen s'envole et tout le monde court à la cave. Mais en décembre 2025, non. Le Nikkei monte, pourquoi ? Eh bien parce que c'était déjà dans les prix. C'est la phrase magique, si demain un astéroïde fonce sur Wall Street, bah les mecs ils vous diront que c'était déjà dans les prix et que c'est une opportunité d'achat pour le secteur de la construction. Le Japon vient de prouver qu'on peut changer une politique monétaire vieille de 30 ans sans faire dérailler le train. Pourquoi ? Parce que les investisseurs sont tellement shootés à la liquidité qu'ils ne sentent même plus les piqûres. On appelle ça de l'insensibilité au risque. Dans mon jargon perso, j'appelle ça le calme plat avant le tsunami, mais profitons du soleil tant qu'il brille sur Tokyo. Un mot sur nos amis les constructeurs automobiles. Tesla est au plus haut de tous les temps. Pourquoi ? Parce qu'on s'en fout des bagnoles électriques. Maintenant, Tesla, c'est des robots et des taxis qui volent. Enfin, sur les slides PowerPoint d'Elon Musk. Et pendant ce temps-là, Ford fait du vrai business. Ils ont arrêté de cramer des milliards dans l'électrique que personne ne veut. Parce que quand c'est de la daube, et c'est de la daube. Et ils reviennent au gros pick-up qui pue avec des V8 et qui rapporte plein de cash. Et devinez quoi ? Le marché, il aime ça. On vit une époque où le pragmatisme redevient une option, mais seulement si vous ne vous appelez pas Musk. D'un côté, on achète du rêve autonome chez Musk. De l'autre, on achète du diesel rentable chez Ford. Le marché est devenu une immense cafétéria où tout le monde prend ce qui l'arrange pourvu que ça monte. On ne choisit plus entre le futur et le présent, on prend les deux en espérant que la facture n'arrive jamais. Et on termine la semaine avec les 4 sorcières, on nous a promis de la volatilité, des larmes et du sang. Et résultat, une promenade de santé. Le rallye de Noël est parmi nous, plus rien ne nous fait peur, des chiffres bidons. On achète, des taux qui montent, on achète, la géopolitique en vrac. On achète encore. Et le S&P 500 n'est plus qu'à 1,2% des records historiques, idéal pour boucler l'année au plus haut de tous les temps et mettre à poil les shorts une fois pour toutes. Je vous avouerai que mon sentiment perso, c'est qu'on marche un tout petit peu sur la tête. Finalement, ces sorcières n'ont transformé personne en citrouille cette année. Le boulevard est propre, les étoiles sont alignées et la complaisance est à son maximum. C'est exactement le moment où, en 30 ans de carrière, j'ai appris à vérifier où se trouve la sortie de secours la plus proche. Mais avant de chercher la porte, eh bien, on va quand même regarder ce qui se passe dans notre jardin, parce que même si le monde marche sur la tête, le jardinier helvétique, lui, essaye de garder la pelouse proprement tondue. On passe donc aux news locales et à notre dose de réalisme suisse. Du côté de chez nous, bonne nouvelle pour la Suisse, Berne et Washington ont fini par se faire des bisous. On passe donc de 39% à 15% de droits de douane sur nos produits. Et ça, en échange, on va manger plus de poissons et de fruits de mer américains, ça vous le savez. Et résultat, les experts du SECO s'enflamment, enfin, ils s'enflamment à la mode suisse, et remontent le PIB 2026 à 1,1%. C'est gentil, c'est légèrement mieux, mais attention, tout ça ne repose que sur une vague promesse et pas forcément un contrat blindé. Entre le francfort qui nous colle au basque et la peur de voir nos entreprises délocalisées aux USA pour plaire à l'oncle Sam, ou à l'oncle Donald, on n'est pas encore sorti de l'auberge. En gros, on respire un peu, mais on garde quand même une main sur le bouton alarme. En Suisse, les économistes interrogés dans le cadre du consensus établi par le COF anticipent une progression du produit intérieur brut, le PIB réel corrigé des événements sportifs de 1,3% en 2025 et de 1% en 2026. Les prévisions d'inflation ont été légèrement revues à la baisse. Quant à une inflation à zéro, on se demande de combien et comment ça peut encore baisser. Toujours en Suisse, le commerce extérieur a évolué au ralenti en novembre. Les exportations ont accéléré d'à peine 1,6%, tandis que les importations ont suivi la même tendance, les achats reculant de 0,8%. Les exportations horlogères helvétiques, quant à elles, ont connu un nouveau repli pour le mois de novembre de 7,3% pour représenter encore 2,2 milliards de francs suisses.
Et enfin, les prix de la construction ont renchéri entre avril et octobre de 0,3%. Pour terminer, en Italie, l'indice de confiance des entreprises et des consommateurs a augmenté de 1,6 points au mois de décembre. La Banque de France se montre un peu plus optimiste pour l'économie hexagonale, relevant sa prévision de croissance à 0,9% pour 2025 et 1% pour 2026. On se demande comment ils arrivent à ce genre de résultats. En revanche, en Allemagne, le moral des consommateurs devrait se dégrader en début d'année, selon l'Institut GfK, reflet des débats tendus sur les retraites et à l'inflation dans le pays. La Bundesbank a par ailleurs modéré sa prévision de croissance du produit intérieur brut allemand en 2026 à 0,6% contre 0,7% précédemment. On s'éclate. Voilà. J'ai certainement oublié des trucs, mais si on veut finir cette vidéo avant le réveillon, il faut que je passe à autre chose. Dans les performances de la semaine, vous voyez que l'argent fait encore parler de lui, plus 8,61%. L'Italie prend pratiquement 3%, le SMI 2,2%, le CAC 40 1%, l'or se contente de 1,36%. Et de l'autre côté, bon, on a le Nikkei qui perd quand même 2,61% sur la semaine. Le Hang Seng est en baisse de 1%, le pétrole qui continue de souffrir et qui baisse de 1,26%. Puis aux États-Unis, le S&P 500 grappille quand même 0,1% sur la semaine. On s'en sort relativement bien par rapport à ce qu'on a vécu. Même le Sox termine en hausse malgré la claque qu'il a pris en tout début de semaine. La performance du SMI, eh bien, on a 7,2% sur UBS, on a 4,5% sur Swiss Life, et de l'autre côté, on a Logitech qui s'est pris une claque dans le sillage de la tech en général, moins 6,8%, et au milieu, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à raconter. Nestlé prend 1% malgré ses histoires avec la flotte, on va y revenir. Et puis Roche et Novartis terminent en hausse de 2,75% à 2,86%, et ça, c'est principalement merci aux histoires de deal avec Donald Trump. Ça aussi, on va y revenir tout à l'heure dans les vedettes de la semaine. Du côté technique, eh bien, on se fait le SMI pour commencer. Vous voyez qu'on est au plus haut de tous les temps sur le SMI, ou en tout cas pas très très loin. Le dernier point haut qu'on avait fait, eh bien, il était à 13 199,05, et pour l'instant, on termine donc la semaine en closing à 13 171,85. On est à quelques millimètres de battre des records historiques sur le SMI. Donc on voit très clairement qu'on est sorti de notre canal ascendant dans lequel on est depuis un bon moment. Et maintenant, il va falloir aller s'établir au-dessus des 13 200 pour entamer une nouvelle ère, comme disait Donald Trump. Le S&P 500, vous voyez qu'on a vécu un sale début de semaine, mais on renverse bien la vapeur en fin de semaine pour finir quasiment inchangé. On est toujours à une centaine de points, enfin 1,2% pour être précis, des plus hauts historiques sur le S&P 500. Et sachant que statistiquement, on est dans une période où ça monte généralement presque tout le temps, on devrait battre des records sur l'indice américain pour fêter la fin de l'année. Le Nasdaq, pareil, vous voyez qu'on a fait un reversal assez spectaculaire, là aussi en milieu de semaine, merci Mike Run dans la foulée, et puis on termine pas très très loin des plus hauts, on a encore un bout de chemin à faire, mais on voit que ça va de nouveau un petit peu mieux sur le secteur de la tech, mais on n'a pas encore réintégré notre canal ascendant qu'on avait sur le Nasdaq, alors prudence quand même, sur le secteur tech, on voit que ça reste un petit peu difficile quand même. Le SOX, vous voyez que lui aussi, il a inversé la tendance, la moyenne mobile, regardez-moi cette cas d'école, le renversement de tendance sur la moyenne mobile était juste incroyable, vraiment spectaculaire ce qu'on arrive à faire, on termine juste là où il fallait, j'ai envie de dire techniquement, on est en positif sur la semaine, ce qui n'était pas franchement gagné d'avance, et on n'a plus que quelques 500 points à gratter pour aller chercher les plus hauts tous les temps. En Allemagne, on est toujours dans le range et il ne se passe pas grand-chose sur le DAX. Le CAC 40 est dans un range latéral également, toujours la même chose. On doit aller chercher absolument ces 8300 pour qu'on sorte de quelque chose sur l'indice français. L'or est de nouveau quasiment au plus haut de tous les temps et ça devrait être une question d'or pour qu'il aille chercher aussi des plus hauts historiques pour boucler l'année. L'argent, c'est juste incroyable ce qu'il est en train de nous faire. La performance est purement stratosphérique et tout le monde est déjà en train de parler de target à 100$ sur l'argent. Le pétrole, toujours dans son canal descendant, il n'y a rien à faire pour l'instant, tant qu'on ne passe pas en dessus de la moyenne mobile des 50 jours, il n'y a pas grand-chose à espérer au niveau du baril. On a vraiment l'impression qu'on va aller chercher au-dessous des 55 ces prochains temps, ou même voir un peu plus bas. On a vraiment la place pour aller chercher encore un peu plus bas, et n'oubliez pas, surtout que Trump veut voir encore le baril, pas le baril, le gallon 30% plus bas très prochainement aux États-Unis, c'est sa volonté, et il l'a affirmé très clairement. Pendant que ce marché a l'air quasiment parfait, le Bitcoin continue de pagayer dans tous les sens, il n'arrive pas à remonter, on oscille toujours en dessous de cette résistance, de ce support qu'on a cassé l'autre jour à 91 500. Il faut absolument qu'on arrive à repasser en dessus pour espérer quelque chose d'un peu plus intéressant ces prochains temps sur le Bitcoin. On attaque tout de suite avec les vedettes de la semaine. Sika en premier. Sika continue de faire ce qu'il sait faire de mieux, bouffer la concurrence pendant que les autres décorent le sapin. Cette fois, ils sont partis faire du shopping en Suède pour acheter Finja, un spécialiste du mortier. L'idée est assez simple, verrouiller un peu plus le marché nordique et gonfler la présence du géant suisse dans la construction intégrée. On attend le feu vert des régulateurs pour finaliser ça au premier trimestre 2026. Bref, c'est du pur Sika, discret, efficace et une brique de plus portée à l'édifice. Vous voyez qu'on continue à faire un reversal. L'annonce de cette semaine nous a permis au moins de finir pour la première fois depuis bien longtemps au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours. Vous voyez que c'était plus arrivé depuis juillet 2025. Il y a un petit truc qui est en train de se dessiner. On a tenu le support des 150. On est en train de construire gentiment une tendance haussière sur Sika. Attention, avec tout ce qu'ils ont mis en place ces derniers temps, peut-être que ce sera un titre qui va faire des étincelles en 2026. Allez savoir. Roche, Novartis, les pharma en général, là ça dépasse un peu le niveau de la Suisse, mais Trump a encore frappé et cette fois il a réussi à faire plier Big Pharma. 9 poids lourds dont Roche, Genentech, Novartis, Sanofi et Merck ont signé un accord vendredi pour sabrer les prix des médicaments. L'idée c'est d'aligner enfin les tarifs US qui sont souvent 3 fois plus élevés sur ceux des autres pays riches. C'est le concept de la nation la plus favorisée appliquée aux pilules. On nous promet des économies massives pour Medicaid et des rabais allant jusqu'à 70% sur certains antidiabétiques via une nouvelle plateforme au nom très sobre et très modeste, TrumpRx.gov. Mais ne sortez pas les mouchoirs pour les labos, en échange de cette générosité, ils vont récupérer un cadeau de Noël avant l'heure, une exemption totale des droits de douane pendant 3 ans. Ils s'engagent donc aussi à réinvestir 150 milliards de dollars dans le R&D, sur le sol américain bien sûr, probablement de l'argent qu'ils allaient dépenser là-bas de toute façon. Bref, c'est du pur deal à la Trump, il offre une ristourne aux électeurs tout en verrouillant la production aux States. Les marchés qui craignaient un contrôle des prix sauvages respirent déjà beaucoup mieux. C'est un compromis qui sauve les marges tout en soignant la communication politique. Encore une fois, la pharma plie, mais elle ne rompt pas. Voilà le bon Roche, donc ça se passe de commentaires, hein. La tendance haussière a été cassée, on a pété les plus hauts de 2025, on est au plus haut de l'année sur le bon Roche, on va aller chercher probablement ces prochains temps les plus hauts de 2022 au niveau des 340 francs suisses. Ce sera un beau target à afficher d'entrée d'ici 2026, mais pour l'instant ça a de très très bien se passer chez Roche qui a clairement renversé la tendance. Le meilleur moyen c'est de voir un peu ce croisement assez spectaculaire des moyens mobile qui s'écarte très très vite et qui nous montre que ça part dans une autre direction et c'est plutôt encourageant pour la suite. Novartis, eux aussi, c'est un peu moins flagrant, mais c'est plus constant, on va dire là aussi. Vous avez le titre qui monte gentiment en direction des 110 balles sur Novartis. On est au plus haut de tous les temps, la clôture est au plus haut de tous les temps cette fin de semaine. Donc ça va très bien, c'est un peu plus hâte-toi lentement. Mais il faut dire que par rapport à Roche, on avait eu moins de creux quand même dans les vagues. Donc l'un dans l'autre, eh bien ça va très très bien pour Novartis qui poursuit son bonhomme de chemin pour aller chercher probablement quelque chose en direction des 117-118 pour le premier trimestre 2026. Plusieurs grandes banques, dont l'établissement aux trois clés, JP Morgan et Citigroup, ont obtenu le rejet d'une plainte collective portant sur plusieurs milliards au Royaume-Uni pour manipulation présumée du marché des changes. La Cour suprême de Londres a mis fin jeudi à cette procédure, selon l'agence Reuters. Alors là, du coup, on se rend compte que de nouveau, eh bien, il y a toujours des banques qui sont plus égales que les autres. Et puis c'est pas tout, Bank of America vient de sortir le grand jeu pour l'UBS. Il passe de neutre à acheté et propulse l'objectif de cours de 35 à 48 francs. Alors pourquoi un tel enthousiasme? Tout simplement parce qu'il voit le bénéfice par action grimper de 30% par an jusqu'en 2028, soit la plus forte croissance du secteur bancaire mondial. Bank of America parie sur deux leviers. D'abord, une main un peu moins lourde du régulateur suisse sur les fonds propres, le fameux compromis dont on a parlé en début de semaine, et ensuite une machine à cash qui tourne à plein régime en Asie. Il prévoit 210 milliards de flux nets dès 2027, soit 30% de mieux que ce que le consensus imagine dans ses rêves les plus fous. Bref, pour les analystes, UBS n'est plus seulement une banque en restructuration, c'est devenu une top ID européenne. On achète la croissance, la gestion de fortune et le retour en grâce politique. Reste à voir si la réalité sera aussi sexy que la feuille Excel de Bank of America. Vous voyez le graphique, ça se passe de commentaires, hein, c'est vertical. Hein, vertical, il n'y a rien à dire. En deux semaines, UBS est passé de 29,58 à 36,81. Donc c'est le carton de fin d'année. C'est extrêmement spectaculaire. On est à deux doigts de se demander s'ils ne sont pas en train de signer une association avec Nvidia pour vendre des semi-conducteurs dédiés à l'intelligence artificielle. Et puis Nestlé a enfin décidé de vider son sac, ou plutôt ses bouteilles. Le géant de Vevey s'apprête à refourguer sa division Waters, l'enfant terrible du groupe, dès le début de l'an prochain. On parle d'un deal à 5 milliards d'euros piloté par Rothschild, avec le fonds français PAI Partners en grand favori pour une alliance à 50-50. Il faut dire que le secteur des eaux est devenu un champ de mine. Entre les scandales de filtration interdite, les contaminations bactériennes et les perquisitions, la marque Perrier commençait à peser lourd dans l'estomac des actionnaires. Et même si le préfet du Gard vient de redonner le droit à Perrier d'exploiter ses forages sous haute surveillance, bien sûr, le mal est déjà fait. Entre l'ONG Foodwatch qui hurle au scandale et les concurrents qui réclament des milliards pour concurrence déloyale, Nestlé préfère passer le bébé à quelqu'un d'autre et gérer ça comme une entité séparée. Bref, Nestlé Waters, c'est l'histoire d'une icône qui finit en eau trouble et le marché attend avec impatience qu'on tire enfin la chasse d'eau sur ce feuilleton. Nestlé, vous voyez que c'est difficile, hein. On a vraiment de la peine, on a tenté un redémarrage ces derniers temps, mais on est revenu plus ou moins à la case départ. L'avantage, c'est qu'on était allé plus ou moins combler le gap qu'on avait laissé, donc ça, c'est plutôt encourageant. Mais on voit vraiment que pour l'instant, ça veut pas. On va dire qu'il y a quelques lueurs d'espoir, mais pour l'instant, ça reste très, très compliqué au niveau de la performance de Nestlé. On va surveiller ça attentivement l'année prochaine. On passe au en vrac de la semaine avec Uber & Sooner, une claque monumentale après un avertissement sur le résultat 2025. Le marché n'a pas fait de quartier. Fontobel fait le ménage à Zurich. Le directeur financier et des risques, Thomas Heinzel, prend la porte. On gère l'intérim en attendant de trouver le prochain fusible. UBS fait le ménage, il dégrade Clarion et Flughafen Zurich à neutre. Résultat, ça baisse direct. Quand le grand frère parle, tout le monde obéit. VAT Group, Goldman Sachs sort le carton rouge avec une recommandation à la vente. La tech suisse souffre encore. Barry Calbo, le roi du chocolat, envisagerait de larguer son activité cacao. C'est encore précoce, mais Reuters a mis le feu aux poudres. Séquence acquisition, Sonova s'offre une techno anti-acouphène. DKSH part au Vietnam racheter un distributeur médical. Et Partners Group s'achète un hôtel de luxe à Barcelone parce qu'il ne dorme jamais. Date Villers, ça grimpe, il se renforce dans les capsules Nespresso avec le rachat de capsuline. Le café, ça paye toujours. Sicor s'envole, Bader LVA passe à l'achat et dit que c'est l'opportunité du moment malgré la baisse de l'objectif de coût. AMS Osram, ils tentent de faire le ménage dans leurs dettes en rachetant leurs propres obligations convertibles de 2027. Et pour terminer, RNS Group vend ses interrupteurs à Pfiffner. Ritter boucle son rachat de Barmag et Plaza revoit ses prévisions à la hausse. Voilà pour le tour d'horizon de cette semaine complètement barjot. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour la dernière ligne droite? Je vais être bref. La semaine prochaine, c'est le désert de Gobi, mais avec des guirlandes. C'est la semaine où les volumes vont disparaître. Autant vous dire que le moindre trader stagiaire qui fait une erreur de frappe peut faire décaler le S&P 500 2%. On va surveiller les chiffres du PCE américain, lundi. La mesure d'inflation préférée de la Fed, comme on dit. Enfin, s'ils ont fini de compter. Et puis, c'est tout. On entre ensuite dans la zone du rallye du Père Noël. Par défaut, il n'y a plus personne pour vendre, alors on monte mécaniquement. Le calendrier de la trêve, sortez vos agendas parce que les horaires, c'est un vrai casse-tête de banquier central. Mercredi 24 décembre, réveillon, le marché suisse est fermé. En Europe, on fermera plus tôt. Et aux USA aussi, clôture anticipée à 13h, heure de New York. Jeudi 25 décembre, c'est Noël. C'est donc rideau partout, fermé en Suisse, fermé aux USA, fermé en Europe. Même les algos ont le droit de manger de la dinde. Vendredi 26 décembre, et y a la Suisse et l'Europe restent fermées. Par contre, les Américains, eux, vont tout de suite retourner travailler. Ne me demandez pas pourquoi, ils aiment ça probablement. Mais bon, à la fin, c'est surtout parce que légalement, Wall Street n'a pas le droit de rester fermé deux séances complètes de suite. Mon conseil, faites comme moi, éteignez la machine, oubliez les candlesticks et les moyennes mobiles, concentrez-vous sur la température du four, le nombre de bouteilles à la cave, et s'il y a de l'Alka-Seltzer dans l'armoire à pharmacie. Le marché ne va pas s'enfuir, et vu la complaisance actuelle, la meilleure performance que vous puissiez faire, c'est de ne rien toucher jusqu'en janvier. On a donc passé une année 2025 de folie entre les records de l'IA et les bricolages de la Fed. Alors rechargez vos batteries parce que 2026 arrive à grands pas et à mon humble avis, on va encore bien rigoler ou bien pleurer. On verra bien. Moi, je serai encore là lundi et mardi pour de nouveaux Morning Bull Live. Le Swiss Bliss est terminé pour cette année, mais je vous ferai quand même des vidéos spéciales Noël Nouvel An dans ces prochains jours. Et on va mettre la pédale douce sur les market updates vu ce qu'il y a à dire. Alors, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous avez aussi le droit de liker, de commenter et de partager, c'est même carrément recommandé. Quant à nous, on se voit lundi. Excellente suite de week-end à tous. Allez, bye bye!
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.